Premier chapitre. Les pierres sottes ou pierres caillasses. Quand nous vîmes à passer au long des pierres, dit Germain, il était environ la minuit. Tout d'un coup, voilà qu'elle nous regarde avec des yeux. Jamais de jour, nous n'avions vu ça, et pourtant, nous avions passé là plus de 100 fois. Nous en avons eu la fièvre de peur, plus de 3 mois encore après moisson. Maurice Sand. Au beau milieu des plaines calcaires de la vallée noire, on voit se creuser brusquement une zone jonchée de magnifiques blocs de granit. Sont-ils de ceux que l'on doit appeler erratiques à cause de leur apparition fortuite dans des régions où ils n'ont pu être amenés que par les eaux diluviennes des âges primitifs? Se sont-ils au contraire formés dans les terrains où on les trouve accumulés? Cette dernière hypothèse semble être démentie par leur forme. Ils sont presque tous arrondis, du moins sur une de leurs faces, et ils présentent l'aspect de gigantesques galets roulés par les flots. Il n'y a pourtant là maintenant que de charmants petits ruisseaux, pressés et tordus en méandres infinis par la masse de ces blocs. Ces riantes et fuyardes petites naïades murmurent, à demi-voix et par bizarres intervalles, des phrases mystérieuses dans une langue inconnue. Ailleurs, les eaux rugissent, chantent ou gazouillent. Là, elles parlent, mais si discrètement que l'oreille attentive des sylvains peut seule les comprendre. Dans les creux où leurs mains se filaient s'amassent, il y a quelquefois des silences. Puis, quand la petite cave est remplie, le trop-plein s'élance et révèle, en quelques paroles précipitées, je ne sais quel secret que les fleurs et les herbes, agitées par l'air qu'elles refoulent, semblent saisir et saluer au passage. Plus loin, ces eaux s'engouffrent et se perdent sous les blocs entassés. Et là, profonde, murmure une onde qu'on ne voit pas. Sur ces roches humides, croissent les plantes également étrangères au sol de la contrée. La méniante, cette blanche petite hyacinthe frisée et dentelée, dont la feuille est celle du trèfle. La digitale pourprée, tachetée de noir et de blanc, comme les granites où elle se plaît. La rosée du soleil, Rosea solis. De charmants saxifrages et une variété de lierres à petites feuilles qui tracent sur les blocs gris de gracieuses arabesques où l'on croit lire des chiffres mystérieux. Autour de ce sanctuaire croissent des arbres magnifiques, des hêtres élancés et des châtaigniers monstrueux. C'est dans un de ces bois ondulés et semés de roches libres, comme celle de la forêt de Fontainebleau, que je trouvais, une année, la végétation splendide et l'ombre épaisse au point que le soleil, en plein midi, tamisé par le feuillage, ne faisait plus pénétrer sur les tiges des arbres et sur les terrains moussus que des tons froids semblables à la lumière verdâtre de la lune. Il n'est pas un coin de la France où les grosses pierres ne frappent vivement l'imagination du paysan, et quand de certaines légendes s'y attachent, vous pouvez être certain, quelle que soit l'hésitation des antiquaires, que le lieu a été consacré par le culte de l'ancienne Gaule. Il y a aussi des noms qui, en dépit de la corruption amenée par le temps, sont assez significatifs pour détruire les doutes. Dans une certaine localité de la Brenne, on trouve le nom très bien conservé des Druidaires. Ailleurs, on trouve les Durdaires, à Crevant, les Dordorins. C'est un semis de ces énormes galets granitiques au sommet d'un monticule conique. Le plus élevé est un champignon dressé sur de petits supports. Ce pourrait être un jeu de la nature, mais ce ne serait pas une raison pour que cette pierre n'eût pas été consacrée par les sacrifices. D'ailleurs, elle s'appelle le Grand Dordorin. C'est comme si l'on disait le Grand Hôtel des Druides. Un peu plus loin, sur le revers d'un ravin inculte et envahi par les eaux, s'élèvent les Parelles. Cela signifie-t-il pareil, jumelles, ou le mot vient-il de patresse, comme celui de Mars ou Marthe vient de matresse, selon nos antiquaires? On ne s'accorde pas sur l'étymologie des fameuses pierres jaumâtres. De Boussac, les uns disent jaumates, celtes, les autres, jovismatri, latin. Ces parelles ou pâtrelles sont deux masses à peu près identiques de volume et de hauteur qui se dressent comme deux tours au bord d'une terrasse naturelle d'un assez vaste développement. Leur base repose sur des assises plus petites. J'y ai trouvé une scorie de mâche-fer qui m'a donné beaucoup à penser. Ce lieu est loin de toute habitation et n'a jamais pu en voir asseoir aucune sur ses aspérités aux fonds inondés. Qu'est-ce qu'une scorie de forge venait faire sous les herbes, dans ce désert où ne vont même pas les troupeaux? Y avait-il donc eu là un foyer intense, peut-être une habitude de sacrifice? J'ai parlé de ce lieu parce qu'il est à peu près inconnu. Nos histoires du Berry n'en font mention que pour le nommer et le ranger hypothétiquement et d'une manière vague parmi les monuments celtiques. Il est cependant d'un grand intérêt au point de vue minéralogique, historique, pittoresque et botanique. À une demi-lieue de là, on voyait encore, il y a quelques années, le trou aux fades, la grotte aux fées, que le propriétaire d'un champ voisin a jugé à propos d'ensevelir sous les terres, pour se préserver apparemment des malignes influences de ces martes. C'était une habitation visiblement taillée dans le roc et composée de deux chambres, séparées par une sorte de cloison à jour. Les paysans croyaient voir, dans un enfoncement arrondi, le four où ces anachorètes faisaient cuire leur pain. Toutefois, cet ermitage n'avait pas été consacré par le séjour de bonnes âmes chrétiennes. Autrement, la dévotion s'en fût emparée comme partout ailleurs, pour y établir des pèlerinages et y poser tout au moins une image bénite. Loin de là, c'était un mauvais endroit où l'on se gardait bien de passer. Aucun sentier n'était tracé dans les ronces. Les paysans vous disaient que les fades étaient des femmes sauvages de l'ancien temps et qu'elles faisaient manger les enfants par des louves blanches. Pourquoi l'antique renommée des prêtresses gauloises est-elle, selon les localités, tantôt funeste et tantôt bénigne? On sait qu'il y a eu différents cultes, successivement vainqueurs les uns des autres, avant, et l'on dit même, l'occupation romaine. Là où les antiques prêtresses sont restées des génies tutélaires, on peut être bien sûr que la croyance était sublime. Là où elles ne sont plus que des goules féroces, le culte a dû être sanguinaire. Les martes, que nous avons nommées à propos des fades, sont des esprits mâles et femelles. Dans les rochers, où se précipite le torrent de la Portefeuille, près de Saint-Benoît-de-Sault, elles apparaissent sous les deux formes et, à quelque sexe qu'elles appartiennent, elles sont également redoutables. Mâles, elles sont encore occupées à relever les dolmens et menhirs épars sur les collines environnantes. Femelles, elles courent, les cheveux flottant jusqu'aux talons, les seins pendant jusqu'à terre, après les laboureurs qui refusent d'aider à leurs travaux mystérieux. Elles les frappent et les torturent, jusqu'à leur faire abandonner en plein jour la charrue et l'attelage. Une cascade très pittoresque au milieu de rochers d'une forme bizarre s'appelle l'air aux martes. Près d'Aigurande, une pierre levée s'appelle la pierre à la marte. Elle est très redoutée. Quand les eaux sont basses, on voit les ustensiles de pierre qui servent à leur cuisine. Leurs hommes mettent la table, c'est-à-dire la pierre du dolmen sur ses assises. Quant à elles, elles essaient follement, vains et fantasques esprits qu'elles sont, d'allumer du feu dans la cascade de Montgarneau et d'y faire bouillir leurs marmites de granit. Furieuses d'échouer sans cesse, elles font retentir les échos de cris et d'imprécations. N'est-ce pas là l'histoire figurée d'un culte renversé qui a fait de vains efforts pour se relever? Dans la plaine de notre Fromental, rien n'est resté de ces traditions symboliques. Seulement quelques pierres isolées dans la région intermédiaire du calcaire au granit sont regardées de travers par les passants attardés. Ces pierres prennent figure et font des grimaces plus ou moins menaçantes, selon que les regards curieux des profanes leur déplaisent plus ou moins. On dit qu'elles parleraient bien si elles pouvaient, et que même les sorciers fins, c'est-à-dire très savants, peuvent les forcer à dire bonsoir. Mais elles sont si têtues et si bornées qu'on n'a jamais pu leur en apprendre davantage. Quelquefois, on passe auprès d'elles sans les voir. C'est qu'en réalité, dit-on, elles n'y sont plus. Elles ont été faire un tour de promenade, et il faut vite s'éloigner le plus possible du chemin qu'elles doivent prendre pour revenir à leur place accoutumée. On ne dit pas si, comme les peulevents bretons, elles vont boire à quelque eau du voisinage. Tant il y a qu'elles sont aussi bêtes que méchantes, car elles se trompent quelquefois de gîte, et des gens qui les ont vues un soir couchées sur une lande aride les revoient le lendemain, à la même heure, debout dans un champ ensemencé. Elles y font du dommage et crèvent brutalement les clôtures. Mais le plus prudent est de ne pas avertir le propriétaire, car, outre qu'il lui serait bien impossible d'enlever ces masses inertes, quand même il y mettrait 12 paires de bœufs, il se pourrait bien qu'elles prissent fantaisie de l'écraser. D'ailleurs, elles sont condamnées à retourner dans leur endroit. Si elles n'ont pas assez de mémoire pour le retrouver tout de suite, c'est tant pis pour elles, elles erreront un an s'il le faut, en courant sur leurs tranches, ce qui les fatigue beaucoup, et il leur est défendu de se reposer autrement que debout, tant qu'elles n'ont pas regagné le lieu où elles ont permission de se coucher. Nous avons vu quelquefois de ces pierres appelées pierres caillasses ou pierres sottes. Ce sont de vraies pierres de calcaire caverneux, dont les trous nombreux et irréguliers donnent facilement l'idée de figures monstrueuses. Quand les inspecteurs des routes les rencontrent à leur portée, ils les font briser, et elles n'ont que ce qu'elles méritent. Nous le voulons bien, quoique ces pauvres pierres ne nous aient jamais fait de mal. Cependant, on assure que, si on ne se dépêche de les briser et de les employer, elles quittent le bord du chemin où on les a rangées et se mettent de nuit tout en travers du passage pour faire abattre les chevaux et verser les voitures. Moralité, le voiturier ne doit pas se coucher et s'endormir sur sa charrette. Quant à vous, esprit fort, qui demandez pourquoi cette grosse pierre se trouve dans telle haie ou sur le bord de tel fossé, si l'on vous répond d'un air mystérieux « Oh, elle n'est pas pour rester là !» Sachez ce que parler veut dire, et ne vous amusez pas à la regarder. Vous pourriez la mettre de mauvaise humeur contre vous et la retrouver le lendemain dans votre jardin, tout au beau milieu de vos cloches à melons ou de vos plates-bandes de fleurs.